J'attends juste encore un peu parce que j'ai demandé que les jeunes soient avec nous ce matin. Car ce que j'ai à partager n'est pas seulement pour les grands, n'est pas seulement pour les grands-parents, n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour la famille de Dieu. La famille de Dieu. Toute la famille de Dieu. La percussion était à l'honneur ce matin. Et la percussion va être à l'honneur tout au long de ce culte. Tout au long de ce culte. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu est comme un marteau. La Bible dit que Dieu frappe aussi à la porte de notre cœur. Ce matin, la parole de Dieu vient comme un marteau. Il vient comme un marteau sur les lieux spirituels de notre ville. Il vient comme un marteau sur les lieux spirituels qui est l'Église. Il vient comme un marteau sur nos familles. Il vient comme un marteau sur mon cœur. La parole de Dieu vient ce matin et il va percuter quelque chose. Vous savez, à chaque fois que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. À chaque fois que Dieu se lève, rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Daniel dit, le prophète Daniel, quelqu'un que j'estime vraiment impressionnant, apparemment je ne suis pas le seul parce que Dieu aussi pense. Ça vient de là ce que je pense. Mais je pense que Dieu pense la même chose parce que les révélations que Daniel a reçues, il n'y en a pas deux qui a reçu la même chose. Les révélations que Daniel a reçues couvrent l'histoire. La révélation que Daniel a reçue est vraiment énorme. Et Daniel a dit une phrase, il dit, « Plusieurs de ceux qui seront dans les tombeaux se lèveront. » Il y aura un temps, il y aura un temps où des gens sortiront du tombeau. La Bible dit, ceux qui entendront la voix du Fils de l'homme sortiront du tombeau. Il y a un temps fixé par Dieu où ceux qui seront dans le tombeau entendront la voix du Fils de l'homme. Mais Daniel dit plusieurs. Il n'a pas dit tous les morts vont se lever. Il a dit plusieurs, c'est une partie, c'est pas la totalité. Juste une partie de ceux qui sont morts se lèveront. J'ai demandé que les jeunes soient là parce que c'est important pour une vie avec la marche avec Dieu, de savoir qui nous sommes, de savoir où nous allons, de savoir quelle est notre direction et quel est l'héritage qui s'attache à notre appel. Quel est l'héritage qui s'attache à notre appel? Il y a quelque chose qui s'attache à l'appel de la vie des jeunes. J'aimerais qu'ils l'entendent. Il y a quelque chose qui s'attache à la vie de chaque membre du groupe de louanges. J'aimerais qu'ils l'entendent. Chaque membre de notre église aujourd'hui devrait entendre qu'il y a quelque chose qui s'attache à l'appel de Dieu à ta vie. C'est une espérance. Ce matin, merci Thibault. Est-ce qu'on peut applaudir Thibault, il va travailler ce matin? Est-ce qu'on peut l'encourager ce matin? Thibault, est-ce que tu peux projeter le premier diapo qui parle en fait de quelque chose? Bon, je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la salle, il y a beaucoup de théologiens. S'il vous plaît, là, la question va être à tout le monde. Alors, je demande à ceux qui connaissent de retenir et au reste de répondre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cri de minuit? Personne. Personne à part les pasteurs. Il y en a quand même qui ont entendu parler du cri de minuit. J'ai choisi de parler sur ça parce que c'est quelque chose qui est sur ma vie depuis longtemps. C'est quelque chose qui a changé ma vie radicalement. Si ma vie allait comme ça, j'ai entendu parler de ça et je suis allé tout droit. Il y a quelque chose qui se passe quand vous prenez conscience de ce que c'est. Aujourd'hui, je vais parler du retour du Seigneur. le retour de notre Dieu, le retour tant attendu de notre Dieu. 2000 ans d'attente, c'est pas rien. 2000 ans où on attend quand est-ce que Dieu va venir, c'est pas rien. Et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est parlé dans la Bible de plus de 1300 fois dans l'Ancien Testament, 319 fois dans le Nouveau Testament. Le retour du Seigneur est quelque chose de super important. Super important. Chaque membre de l'Église, chaque disciple de Jésus-Christ vit dans l'attente impatiemment du retour, du jour où le Fils de l'homme paraîtra. Chaque enfant de Dieu soupire à ça. Et ça va être un jour comme on ne l'imagine pas. Je vais parler de l'enlèvement. L'enlèvement est un mystère. La Bible dit que le peuple périt par faute de connaissance. Je vous ai posé la question, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas du tout sur ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui prêchent sur ça, mais le retour du Seigneur a été tellement prêché et qu'il y a eu tellement de déceptions que maintenant, on n'a plus envie d'être déçu. Donc, on écarte. Mais le retour du Seigneur, mes amis, c'est quelque chose pour toi et moi, quelque chose qui changera. C'est quelque chose pour moi qui est super important dans le sens que ça changera le cours de ma vie. Un jour, je verrai mon Sauveur face à face. Un jour, il se passera quelque chose et mes yeux verront le Seigneur. On parlera de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est écrit dans les Épîtres. La personne qui a écrit le plus sur ça, c'est l'apôtre Paul. Et c'est écrit, par exemple, dans Timothée. C'est écrit pour les Corinthiens. C'est écrit dans Tite. C'est écrit dans Thessaloniciens. Et dans les Corinthiens, il y a plein d'écritures qui parlent de ça. Mais aujourd'hui, la compréhension est comme éclairée. La compréhension semble un peu... c'est pas changé. Mais je pense aussi que on entre dans ce temps, et ça fait un moment déjà, ce temps de la connaissance. La Bible parle de, à un moment donné, c'est comme s'il y a une lumière qui vient sur la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Le temps de la connaissance. Si je lis dans Timothée, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur va venir. Certainement que le Seigneur va revenir. Certainement. Dans 1 Corinthiens 15, 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Moi, je me réjouis pas seulement à cause des cheveux blancs. Je me réjouis, mais je serai tellement changé. Je ne serai pas comme vous voyez là. Tellement changé. Ça n'a rien à voir. Vous avez le moule un peu comme ça, mais ça fonctionne autrement. Il y a d'autres lois. Je serai changé en un instant. Changé en un instant. Un jour, j'ai passé mon permis de conduire. Et j'ai passé la première fois et je ne l'ai pas passé. J'ai passé la deuxième fois et je ne l'ai pas passé. Je commence à voir un peu. La troisième fois seulement, j'ai réussi. En fait, j'étais juste avant la porte du psy. Heureusement, aujourd'hui, on a un pasteur qui est psy. Mais je l'ai évité de tout près. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de la joie de ce que c'est d'être sauvé. Moi, quand je suis conduit ma voiture, je suis au volant de ma voiture. C'est moi qui conduis ma voiture. Ma femme, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est moi qui conduis ma voiture. Vous imaginez pas la joie de pouvoir choisir, je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je vais accélérer, je vais freiner. La joie de choisir ma direction. Quand je pense au salut, c'est réducteur. Hein. Je pense comme je suis au-devant de mon volant de voiture. Je me rappelle à chaque fois, puis à chaque fois que je prends le volant, ben je dis, Seigneur, aujourd'hui, je te remets ma route. Aujourd'hui, Seigneur, bénis les personnes qui sont sur ma route. Aujourd'hui, Seigneur, tout esprit d'accident, je le bannis au nom de Jésus-Christ. Pars de ma vie, hors de mon chemin. Et c'est de la même manière que je regarde l'éternité. L'éternité, pour moi, c'est je dis tout, je me fixe sur l'éternité, tout piège de Satan, toute adversité, ordre. On n'est pas épargné comme enfant de Dieu. Il y aura toujours un combat, mais c'est bien d'avoir un but. L'apôtre Paul parle du bienheureux événement. Bienheureux. C'est écrit dans Tite, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est une bienheureuse espérance, donc, à avoir avec la gloire. Ce n'est pas juste espérer pour avoir quelque chose, mais c'est interconnecté. Ça dépend de la gloire de Dieu. Mon espérance dépend de la gloire de Dieu. Mon espérance ne dépend pas de moi. Mon espérance dépend de qui il est, de la gloire de Dieu. Parce qu'il est, c'est la gloire de Dieu. Mon espérance dépend de la gloire de Dieu. Une chose demeure, la foi, l'espérance, l'amour. La foi, c'est ce qui nous permettra de nous fixer comme un chauffeur. La foi, c'est ce qui nous guidera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'espérance, c'est notre motivation. Si vous vous levez le matin en sachant qu'aujourd'hui, peut-être, je vais être changé en gloire. Je ne sais pas, mais moi, quand je marche après, c'est moi. Vous voyez ? Dans l'histoire, Dieu s'est choisi un peuple. Et Dieu voulait que ce soit des personnes qui vont régner sur le monde. Mais Dieu voulait aussi que ce soit des personnes qui vont parler de Dieu, représenter Dieu, dire qui il est et vivre comme lui vit. Ces gens-là, ils sont destinés pour régner, mais ils sont destinés aussi pour adorer Dieu, être des sacrificateurs, des adorateurs de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un va regarder leur vie, ils sauront exactement, celui-là c'est le bon, non, celui-là il n'est pas. La représentation de qui il est portée par les personnes. Dieu a choisi Israël comme nation pour faire cela au tout début. Et c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi aussi l'Église, chacun d'entre nous. Et voici notre texte d'aujourd'hui. C'est dans Matthieu 25. Donc je lis dans Matthieu 25. C'est une parabole bien connue, mais vraiment super connue. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux. Allez à son rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez. » Pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Je vais commencer par là. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Si vous avez une question à la fin de la prédication, ben ce ne sera pas celle-là. Personne ne sait. Mais retenez juste la parole qui dit « Veillez ». Quand le regard de Dieu parcourt la terre, il voit deux catégories. Il voit une partie sans Christ et une partie en Christ. Il n'y a que ces deux parties. À qui s'adresse cette parabole? Dans 1 Corinthiens 10, 32, c'est écrit comme ça. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Selon l'apôtre Paul, donc, il y a trois catégories de personnes sur cette terre. Les Grecs, c'est-à-dire les nations, les Juifs et l'Église de Dieu. Il y a trois catégories. À qui s'adresse le parabole? Est-ce que le parabole s'adresse aux nations? Non? Les nations s'en foutent complètement, excusez-moi du terme. Ce n'est pas leur truc, non. Ça ne les touche pas, ils ne sont pas là, là. Non, ce n'est pas pour eux. Est-ce que ça s'adresse aux Juifs? Peut-être, peut-être pas, oui, non. Est-ce que ça s'adresse aux Juifs? Non, parce que les Juifs, eux, ils attendent plutôt un Messie, quelqu'un qui va amener la suprématie d'Israël, la suprématie d'Israël. Ils attendent quelqu'un qui va amener la suprématie d'Israël. Alors, il ne reste plus qu'un, l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur. Par déduction, en fait, on peut dire que le parabole s'adresse à l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur a commencé de manière surnaturelle. À un moment donné, le Saint-Esprit vient sur 120 personnes qui sont dans une chambre haute et à partir de là, l'œuvre de Dieu commence par rapport à l'Église. Si l'Église commence de manière surnaturelle, elle finira aussi de manière surnaturelle. Il y aura un début, il y aura une fin. C'est un mystère. C'est un mystère parce que même les disciples ne comprenaient pas du début. Elle a commencé de manière surnaturelle, elle finira d'une manière surnaturelle. C'est Dieu qui l'a commencé et c'est Dieu qui va achever aussi la fin de l'histoire de l'Église. L'événement qui va venir, c'est un événement surnaturel. L'enlèvement de l'Église, c'est un événement surnaturel. Et là, ça va être la fin de la dispensation de l'Église. La fin du temps de la grâce. La grâce qu'on a besoin tous, chaque jour. À un moment donné, voilà, ça va être la fin. Dans Matthieu 13, il y a 7 paraboles concernant le royaume de Dieu. Dans ces 7 paraboles, il y a 2 paraboles qui se suivent à l'intérieur. Floël a déjà parlé sur quelques-uns. Il y a 2 paraboles qui se suivent qui parlent du royaume de Dieu. Mais juste rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus a dit une phrase qui est vraiment magnifique. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans Jean 14, 1. Jésus parlait qu'il reviendrait. Il a dit à ses disciples, lui-même, donc de la bouche de Jésus, est sorti le mot « je vais revenir ». Ce n'est pas une invention, c'est une promesse et c'est une espérance. Dans Jean 14, 1, dit « que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Donc c'est écrit, je reviendrai. Et regardez la suite. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quand le Seigneur viendra et il va venir pour nous prendre avec lui, ce ne serait pas pour aller à Madagascar. Ce ne serait pas pour aller visiter l'Amérique du temps de ce président. Il parle d'abord de la maison de son père. La maison de son père. Ça vient d'où cette histoire? En fait, c'est dans la tradition juive concernant le mariage, les fiançailles, on peut, en fait, par rapport à la culture juive, peut avoir une idée de ce que le Seigneur parle. Parce que le jeune homme, quand il va se marier, il discute avec son père et puis il dit à son père, ben voilà, j'ai trouvé celle qui sera ma femme. Et son père lui dit, ben, ok, tu as trouvé celle qui sera ta femme, viens dans ma maison, dans la maison du père, et prépare-lui une place. Fais-lui une chambre. Et un jour, quand tout ça sera préparé, je t'enverrai chercher ton épouse et on réglera la chose. Quand le temps arrive, le jeune homme va chercher son épouse, sa femme, et il y a toute une cérémonie qui se fait. Et une partie de cette cérémonie, on peut le retrouver dans la Sainte Cène. Voilà pourquoi, par exemple, on doit le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Quand tout sera prêt, c'est le Père qui prend la décision. Va chercher. Va le chercher. En pensant à ça, regardez ce que Dieu dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tout est préparé. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans 1 Tite 4, 16, c'est marqué, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance, là, c'est la bienheureuse espérance qu'on a parlé au tout début. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. De la même manière que vous croyez Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est comme ça que vous êtes sauvés, parce que vous croyez dans ce que Jésus a fait. De la même manière, vous devez croire que Jésus a le pouvoir de ramener l'Église dans la maison du Père. Ça, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu ça seulement en préparant le message. C'est un verset qu'on lit tous les jours. Nous sommes familiers avec ce verset. Mais c'est écrit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Apocalypse 4, 1. Imaginez un instant qu'au lieu que ce soit la lune ou le soleil, il y a une porte. Et imaginez que ce n'est pas tout le monde qui franchit la porte. Plusieurs de ceux qui sont dans le tombeau se lèveront, une partie seulement. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Au début de l'Apocalypse, à l'Apocalypse 1, 19, il y a un verset qui donne un aperçu de ce qui est contenu dans le livre de l'Apocalypse. Ce verset dit, Apocalypse 1, 19, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? En fait, je ne l'ai pas dans mon... Apocalypse 1, 19.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite.
Les choses que tu as vues, les choses qui sont, et ce qui doit arriver après elle. Les choses que tu as vues, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jean a vu qui est Jésus, qui il est réellement. Ça, c'est les choses que tu as vues. Les choses qui sont, c'est l'histoire de l'Église. Ça, tu le trouves dans Apocalypse 2 et 3. Il y a 7 lettres aux Églises. Et après ça, les choses qui doivent venir après elle. Il y avait une porte. Jean était amené, entré dans la porte. Et à partir de là, dans l'Apocalypse, il n'est plus mention de l'Église. On ne parle plus, ce n'est pas écrit l'Église du Seigneur. La Bible parle de l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra. Il y a une confusion sur ça parce que c'est tellement fort le moment où Jésus vient dans la gloire avec les rachetés. C'est tellement fort cette image parce que Jésus vient pour son règne et il vient en gloire. Il vient comme le roi de gloire, celui qui va régner sur la terre. Et c'est tellement fort cette image que les choses se mélangent un peu dans la compréhension. De la même manière que Jésus est monté au ciel, il revient de la même manière. Vous savez tous que les disciples étaient là et ils l'ont vu monter. Ça, c'est une manière de monter. Mais à un moment donné, il a parlé avec une dame. Quand il vient d'être ressuscité. Il a parlé avec cette dame était Marie, et il lui dit, Marie, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté dans la maison de mon Père. Je vais monter dans la maison de mon Père. La compréhension est que c'est comme s'il y a deux phases de cette montée de Dieu. C'est pas comme s'il est monté définitivement, une fois, mais il part, il dit à Marie, je vais monter vers la maison de mon Père. est, ne me touche pas. Là, il va aller amener son sacrifice. C'est vraiment à propos de son ministère futur d'intercesseur, de sacrificateur, de grand sacrificateur. Et à un moment donné, après ça, tout le monde le voit. Donc, en particulier les disciples, voient monter dans les nuées. Donc, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui se passe en privé et il y a quelque chose qui se passe en public. De la même manière, le retour de Jésus se passera de la même manière. L'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, quand il viendra avec son Église, se passera en public. Mais l'avènement du Seigneur, quand il vient chercher son Église, se passe de manière privée. Ce n'est pas tout le monde qui va savoir. Il y a une grande partie, la majorité des gens ne le sauront pas. Alors que Jésus reviendra. Dans l'église des Thessaloniciens, Paul leur a écrit pour dire que il paraît qu'il y a des lettres qu'on dit de ma part et qui parlent justement de l'avènement du Seigneur. Et ça contredit ce que j'ai dit quand j'étais au milieu de vous. Et il est clair, l'apôtre Paul, il dit, ne vous laissez pas ébranler. Je n'ai pas changé d'avis. Ce que j'ai dit quand j'étais au milieu de vous reste valable. Et il dit, ce qui concerne l'avènement du Seigneur, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne les temps et les moments. Ça, c'est ce que j'ai dit quand j'étais au milieu de vous. Ça, ça n'a pas changé. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, c'est marqué, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Donc, c'est Jésus qui parle. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. L'apôtre Paul savait très bien que la vie chrétienne est difficile. Et en ce temps-là, quand il écrit cette épître aux Thessaloniciens, Néron était au pouvoir, l'empereur. Et l'Église croyait que la tribulation était déjà là, à cause de ce qui se passait, parce qu'ils zigouillaient les gens. Ce qui était dans leur cœur, c'est qu'on est déjà dans la tribulation. Et l'Église de Thessalonique était ébranlée par rapport à leur connaissance. Et l'apôtre Paul a dû prendre une décision d'écrire une seconde fois. Quand il écrit une seconde fois, ça dit ça. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ça, c'est quand il écrit la deuxième fois. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Notre pasteur Nicolas a déjà expliqué le mot apostasie. Apostasie vient du mot grec apostasia. Bon, je ne suis pas grec, comme vous le voyez. Ça vient du mot grec apostasia. La signification, c'est action de s'éloigner, de défection, défection et désertion. Quand vous le mettez dans la Bible Strong, il y a deux versets qui apparaissent, c'est Actes 21:21 et 2 Thessaloniciens 2:3. Il y a une autre signification qu'on donne à ce même mot, mais la manière dont c'est traduit, c'est dit « se détourner ». Et en masculin, en fait, ça donne « apostasion ». Et c'est un mot qui est composé de deux mots. La première partie, c'est « apo », et la deuxième partie, c'est « isthémie ». Et « isthémie » vient du « aphistémie ». Cet « aphistémie », vous le trouvez beaucoup dans la Bible, notamment dans Hébreux 3:12. La définition, c'est « se retirer ». Enlever, s'éloigner, partir, quitter. Ça, c'est la définition. La première partie qui est apo, la définition, c'est de séparation. Et apo, quand apo est placé après un verbe, c'est par rapport à un lieu, c'est-à-dire un départ ou un envol. Apo. Donc, apostasia. Si on dit simplement, très simplement, ça veut dire départ. Si je reprends, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Si on le traduit un peu dans notre du langage dans la vie de tous les jours, ça pourrait donner ça. Ne vous laissez pas berner par quoi que ce soit, car la tribulation ne peut pas survenir avant que n'ait d'abord eu lieu le départ. C'est le mot apostasia. Le départ, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Quand il parle de départ, là, c'est nous. Non, mais c'est nous. Il parle de nous, là. Il parle de quelque chose préparé d'il y a 2000, plus de 2000 ans, attendu depuis 2000 ans. Il parle de quelque chose qui est réservé. Il faut juste, en fait, on a l'habitude de chercher des références dans le monde pour chercher si l'Antichrist va se montrer ou pas. Mais la parole nous indique qu'il ne faut pas regarder à ça. Ce n'est pas l'Antichrist notre référence. Notre référence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il dit, ne vous troublez pas. Il faut juste que celui qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut absolument que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelque chose qui empêche l'Antichrist de paraître. Si vous ne comprenez pas la puissance de ce que c'est un chrétien dans le monde, ce que c'est d'être sel de la terre, ce que c'est d'être lumière du monde. Réfléchissez à ça. Tant qu'il y a un chrétien, un, sur cette terre, qui soit sauvé, qui porte la lumière du monde, qui soit le sel de la terre, l'Antichrist ne pourra pas paraître. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il faut encore que celui qui le retient ait disparu. Vous savez alors ce qui va se passer. Vous savez qu'il suffit juste. Oui, je sais qu'il y a plusieurs doctrines, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, oui, mais je ne vais pas aller dans ça. Je parle de ce que je vis, je parle de ma conviction, je parle de ce que j'ai regardé dans la parole, je parle de ce que j'ai entendu prêcher, je parle de ma recherche de la vie de tous les jours, ce qui fait que je me lève, ce qui fait que je marche dans la vérité, je parle de cela. Je parle de ma conviction. Et ma conviction est que l'Antichrist ne paraîtra pas tant que l'Église ne soit pas enlevée. Alors, vous savez, vous entendez parler, le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Ça, c'est la phrase vraiment courante dans la prédication. Faites attention, le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui. En fait, cette phrase est mitigée parce qu'il y a une condition à l'apparition de Jésus. Il y a des conditions. Donc, tant que les choses ne paraissent pas, la manifestation du Fils de l'homme ne peut pas se faire. Je vais revenir à notre parabole et je vais finir par là. Je vais le relire. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent, s'endormirent. Au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux. Je vous ai posé la question, puisque vous avez entendu parler du cri dominé. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, et ainsi de suite. C'est si on n'arrivera pas en une prédication couvrir le sujet. C'est très difficile parce qu'il y a trop de choses à savoir et à dire. Mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus important que ça parce que dans ce parabole qui s'adresse à l'Église, il y en a 5 qui sont sages, il y en a 5 qui sont folles. Et là, en général, je vous dis, tournez-vous vers... Non, je ne vais pas le faire. Il y a 5 qui sont sages. Il y a 5 qui sont folles. Dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été comme ça. Il y a des sages dans l'Église. Il y a des vierges folles. Dans l'Église, il y a du blé, dans la parole. Il y a du blé, il y a de l'ivraie. Si vous lisez le psaume 45, vous verrez qu'il y a l'histoire d'une reine et l'histoire des jeunes filles. Dans l'Église, il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Est-ce qu'ils sont sauvés ? Oui. Ils sont tous sauvés. Tous sont sauvés. Mais il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. L'apôtre Paul l'explique comme ça. Il dit, je ne peux pas vous nourrir, je ne peux pas vous donner de la viande parce que vous êtes tellement encore difficile à comprendre. Là, vous ramez tellement que je dois vous donner du lait. Il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens charnels. Est-ce qu'ils sont sauvés ? Oui, ils sont sauvés. Mais le salut s'accomplit différemment pour les deux. Le salut s'accomplit différemment. Dans Luc 21, 29, je vais commencer au 34, ça dit ça. Prenez garde à vous-même de crainte que votre cœur ne s'appesantisse par les accès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. S'appesantir, c'est en train de s'endormir. Les vierges, toutes dormaient. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, on cria, et c'est comme si, quand ce signal est donné, quand ce cri est lancé, le sort de toutes les vierges sont scellés. Elles s'endorment toutes de la même manière. Elles vont toutes dans la même église. Ils sont tous chrétiens de la même manière. Mais une partie n'ont pas d'huile et une partie ont de l'huile. C'est du sérieux. Luc nous prévient que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui arrive à fuir ce temps-là. Parce qu'il faut avoir la compréhension que quand les trompettes sonnent dans la vie du peuple d'Israël, c'était soit pour un rassemblement, rassembler le peuple, soit pour annoncer un départ en vol apostasie, soit pour déclarer la guerre. Il y a d'autres choses, mais cela rentre dans l'utilisation de la trompette. Et quand, à la dernière trompette, c'est marqué, il y a la trompette qui sonnera, ça veut dire aussi qu'il y a une déclaration de guerre qui va se faire. Ça fait tellement longtemps, que le Seigneur attend de montrer qui il est, de montrer toute sa gloire, d'accepter que les gens le méprisent, d'accepter toutes sortes d'abominations, de faire en sorte. Vous savez, quand le péché n'est pas encore arrivé à son apogée, le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Mais à un moment donné, le péché arrive à son apogée. Je veux vous dire, le péché maintenant arrive à son apogée dans notre monde. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la liste du péché parce que ce n'est pas mon but. Mais quand le péché arrive à son apogée, la trompette sonne, il y aura une déclaration de guerre. Dieu va montrer qui il est. Souvent, je me suis demandé, est-ce qu'il y aura des événements qui pourraient dire, ben voilà, ça c'est le cri de minuit, c'est s'aventurer. Il y a beaucoup de spécialistes qui l'expliquent et moi, je vais leur laisser vraiment parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup plus d'études et qui connaissent vraiment le sujet. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on sache qu'il y aura un événement. Si je vous pose la question, où étiez-vous quand le 11 septembre 2001 s'est passé? Hein? Tu dormais, toi? Tu es un peu comme les vierges. Ah, tu as travaillé toute la nuit, ok. Où étiez-vous? Où étiez-vous quand ça s'est passé? Moi, j'étais dans un studio d'enregistrement en train de faire des clips. J'étais en train de tourner une clip. Je sais exactement qu'est-ce que je faisais à l'heure précise quand ça a été déclenché. À un moment donné, quelque chose va se passer sur cette terre, de la même ordre, si ce n'est beaucoup plus grand que ça. Il se passera quelque chose et tout le monde entier saura. Alors les vierges vont revenir tous à l'église. Vous savez, après le 11 septembre, les gens revenaient à l'église 3-4 fois. Je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que il se passera quelque chose d'une manière tragique qui va changer notre manière de vivre dans la vie de tous les jours, que notre routine dans la vie de quotidien va être interrompue. Et on prendra conscience que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. À un moment donné, des gens vont quitter la terre. Le Seigneur descend et quelque part dans le ciel, entre le ciel qu'on voit et le ciel de Dieu, il y aura une rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, quand Moïse est décédé, l'ange Michaël contestait avec Satan par rapport au corps de Moïse. Il contestait, Michaël dit que l'Éternel te réprime et imaginez-vous quand autant de millions et des millions de gens, des millions et des millions de gens vont être en même temps, au même endroit là. Il y aura une telle guerre, une telle puissance qu'il faut que Dieu fasse ça d'une manière, seul Dieu peut le faire. Et comme ça, puis c'est fait, en un clin d'œil, et paf, et puis il n'y a plus rien. Et des gens vont disparaître. Les gens vont chercher où est-ce qu'il est passé. Et puis, imaginez si c'est des pilotes. Imaginez si, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans un central nucléaire. Imaginez. C'est dramatique ce qui va se passer. Mais ce n'est pas ça le truc glorieux. Le truc glorieux, c'est toutes les personnes qui sont déjà auprès du Seigneur. Ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui ressusciteront en premier. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Il y a tellement de choses à dire, je vais m'arrêter. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Aujourd'hui, si vous voulez, si un chrétien meurt, il va directement auprès de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est avantageux pour moi. Ils sont avec Jésus, mais ils n'ont pas leur corps. Et la promesse qui nous est faite, nous qui sommes vivants, on sera changé en un instant, mais c'est eux qui reçoivent en premier leur corps glorifié. Et imaginez, en un instant, tous les morts en Christ, de toute génération.